Peut-être une question pour revenir à la radio.
Bonjour Béja, bonjour à tous. Eh ben chez vous, camarade José Homme, que vous avez dans les oreilles, et vous écoutez une émission qui s'appelle 4 coeurs, et je vous le donne mille, vous êtes tertous sur Radio Provisoire. Étonnant, non? Radio Provisoire, étonnant, non?
On a le deuxième invité de ce 4 quarts, José Ambre, qui est dans les studios. José Ambre, bonjour.
Bonjour mes deux camarades, bonjour mes gens, bonjour tertous.
Ça me fait plaisir de t'avoir, puisque moi, étant collégien, je t'écoutais avec mon frère dans la chambre sur Fréquence Nord.
Oui, t'écoutais... Bah, Fréquence Nord à l'époque, ouais.
Voilà.
À partir du 19 mai 80.
Et là, tu faisais une chronique, c'était de cloquer un cloquer, être béfro un béfro. Il y a tout dit à l'histoire qu'on raconte à Pato. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir dans les studios de PFM. Et tu as eu la gentillesse de m'emmener avec toi pour ta conférence sur les 50 ans de radio.
Ouais.
Et tu commençais un peu pour parler, tu te faisais un portrait de tes parents, de tes grands-parents. Et
ouais.
Tu expliquais que ton père est originaire d'un petit village à Saint-Omer, Esquerme.
Esquerde.
Esquerde, alors je me trompe à chaque fois. Et donc, c'est Esquerde.
Esquerde.
Voilà.
Voilà, quand on part de Saint-Omer par l'ancienne route nationale, faut éviter l'autoroute, hein, ça va trop vite. Et donc on passe par Wizerne, Aline, et on arrive à Esquerde pour continuer sur l'Imbre, Niel-les-Bléquins, et on rejoint Boulogne par les
voilà.
Petites départementales.
Entre Saint-Omer et l'ancienne route de
voilà.
Saint-Omer à Boulogne-sur-Mer.
Voilà.
Et donc c'est vraiment le littoral, les Flandres littorales du littoral.
Ouais, c'est l'Audomarois, ouais. C'est...
L'Audomarois, c'est parce que je pense à William Schott que j'avais interviewé l'an dernier quand il était venu dans la cour d'hôtel de Guine, et lui aussi, il est originaire des Flandres, mais des Flandres maritimes aussi, le nord plutôt que le Pas-de-Calais. Donc tu disais avant qu'on rentre en studio, ton père donc est né à Esquerde,
oui.
Il a vécu à Esquerde, et tu parlais des événements, enfin de ton enfance et de ce directeur de la poudrière, la poudrerie d'Esquerde.
Non, mais ça c'est pas mon enfance, hein, c'était avant.
Oui, enfin, c'est avant.
Oui. En fait, bon, pour revenir au début de l'histoire, comme beaucoup de ch'timis, je suis pas d'origine française. Voilà, j'ai un grand-père qui est né en Espagne en 1888 et qui était ouvrier semainier espagnol et qui venait louer ses services dans une ferme 6 mois par an à Esquerde, la ferme Jougleux dans l'ancien château fort du village. Et il louait ses services comme ouvrier semainier pour envoyer un peu d'argent à la maison près de Cadix. Ils étaient très pauvres. Et là, il a rencontré ma grand-mère qui, elle, avait été ramenée dans les bagages d'un officier français qui avait fait la guerre du Tonkin, qui l'avait ramenée et qui était devenue un peu sa fille, quoi. C'était une enfant, on parlait pas d'adoption à l'époque, mais c'était quasiment ça. Et donc, tous les deux, le grand-père et la grand-mère, venus, une du Annam, province vietnamienne près du Tonkin, et l'autre d'Espagne, ne parlaient que le patois qu'on parlait dans le village. Ils n'ont pas appris le français académique.
Donc c'est vraiment ce qu'on parle d'une langue maternelle, et là c'est vraiment le premier français qu'ils ont appris, c'est le patois.
La première langue qu'ils ont appris, c'est le picard.
Hein, au sens strict, voilà, c'est le picard.
Voilà. Et donc mon père parlait évidemment picard, mais bon, c'est, comme ces gens-là ont voulu faire évoluer mon père, on l'a envoyé à l'école, et il est devenu instituteur, ce qui fait qu'à l'école, il a appris le français. Mais quand il retournait dans son village, il parlait le patois avec tous ses copains, quoi. Pendant la guerre à Esquerde, il y avait une poudrerie nationale.
Voilà, l'histoire de la poudrerie.
Alors l'histoire de la poudrerie nationale qui fabriquait de la poudre noire, de la poudre à canon. Et donc pour l'armée française, sauf qu'en 1939, quand les Allemands pénètrent en France, ils prennent évidemment tout le nord de la France, et cette poudrerie nationale va travailler pour les Allemands. Et va être dirigée par un ingénieur des poudres, bon, de nationalité allemande à l'époque, mais qui était d'Alsace, puisque les Alsaciens étaient allemands. Et il était allemand par force, mais français de cœur. Et il s'appelait Monsieur Deck, Il a évité à tous les jeunes qui étaient en âge de partir au STO, service de travail obligatoire en Allemagne, donc du village, les enfants de paysans ou...
En disant, moi j'ai besoin de main-d'œuvre,
J'ai besoin de main-d'œuvre, donc moi il me faut ces gars-là, ils restent là pour travailler dans la poudrerie.
C'était vachement habile finalement.
Ben, c'était habile, ça rendait service aux gens. Entre autres, il donnait aussi aux paysans du nitrate, parce que ça, le nitrate c'était pour un des composants de la poudre noire, oui. Avec le soufre, etc. D'accord. Et comme il n'y avait plus d'engrais, plus rien du tout, il sortait du nitrate de la poudrerie pour le donner comme engrais aux paysans. Et ces garçons qui étaient là dans la poudrerie, ben, il fallait qu'ils soient occupés tout le temps. Ce qui fait que mon père, pendant les 3 ans où il était à la poudrerie, il a passé son temps à déménager les archives de la poudrerie qui s'étalaient sur 1 kilomètre de long, le long de la A, pour aller les installer 1 kilomètre plus loin dans un autre local. Et quand il avait fini de tout reclasser, il redémontait les archives pour revenir les... Et il a fait ça pendant 3 ans, des allers-retours avec une brouette où il transportait, mais il fallait toujours qu'il soit occupé.
Donc toi tu es né à la fin de la guerre, en 1944 ?
43
même, oui. Donc c'est ta prime jeunesse, mais plus tard, bon, avec tu as tes premiers souvenirs, c'est vers l'âge de 3 ans. Comment tu as vécu dans l'Odo Marois, quels sont tes souvenirs?
Bon, quand je suis venu au monde, j'étais la perle de mes grands-parents, bien sûr. Et le plus beau des petits-fils, vu que j'étais tout seul. Ouais.
Forcément, ben oui.
Et donc, tout petit, je passais toutes mes vacances, dès que je suis rentré à l'école maternelle. Avant, j'y passais de longs moments, et quand je suis rentré à l'école maternelle, j'avais 4 ans. Et ben, pendant les vacances scolaires, le jour des vacances scolaires, que ce soit les vacances de Pâques, etc., et tout, mon grand-père avait pris le train pour venir me chercher, pour m'emmener passer à Eckert chez lui. Et donc j'ai passé, disons, la moitié de l'année chez mes grands-parents, quasiment, puisque les grandes vacances, etc.,
ouais,
c'était très long. Je passais la moitié de l'année chez mes grands-parents, et j'ai donc parlé le patois
d'abord
avant
aussi,
de parler le français.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment tes racines.
Je n'ai entendu, moi, mes oreilles d'enfant chez mes grands-parents, jamais parler autrement que le patois.
Moi, par exemple, mon père a vécu à Auchel et mon grand-père parlait patois. Et mon père se remettait à parler patois parce qu'il a enseigné le français.
Ah bah,
quand mon grand-père venait faire des travaux dans l'ancienne ferme de mes parents. Quoi.
Et moi, c'est pareil. Quand mon père venait chez ses parents et avec ses copains d'enfance du village, mon père ne parlait que le patois. Alors évidemment, quand on revenait à Arras, puisqu'on habitait à Arras, et mon père était prof de maths, lui, parlait français... dans la ville où il travaillait, sauf avec quelques collègues
permutaient en patois.
Issus de campagnes où on parlait patois. Et entre eux, ils parlaient patois aussi.
C'est étonnant, c'est vraiment le bilinguisme qui était intégré dans la vie quotidienne. Voilà. Quoi. Et moi, j'étais fasciné par ça.
J'ai perdu, il y a quelques années maintenant, un ami très cher qui était Lucien Nauclair. Lucien Nauclair, c'était mon instituteur de cours élémentaire première année à l'école Ferdinand Buisson, ici.
Ah oui, d'accord.
Et c'était lui qui avait monté les cycles de conférences à Arras, Connaissance du Monde.
Ah oui, d'accord, effectivement, j'ai suivi ça
ensuite,
quand j'étais au collège.
Après, quand il était en retraite, il s'est occupé longtemps de l'agence de voyage qui est en haut de la rue, près de la gare, en haut de la rue Saint-Aubert. C'est lui qui s'occupait de l'agence de voyage. Donc il est décédé assez vieux, on s'est retrouvé, je l'appelais Schmett et on se tutoyait, et je lui ai ramené une fois mon carnet, à l'époque on avait des petits carnets de correspondance hein, à l'école primaire, qu'on ramenait pour faire signer aux parents.
Ouais, c'est ça, bah oui, ça n'a pas trop changé après. Hein.
Où j'étais toujours puni parce que
et tu parlais trop
à toi. Parce qu'en général, j'avais des moyennes en français, maths, récitation, histoire, géographie.
Ça roulait, quoi.
10 sur 10.
Ouais.
Tu vois
on peut pas mieux.
Et ce qui faisait baisser notablement ma moyenne, c'était le zéro de conduite que j'avais tous les mois.
D'accord.
Voilà.
Déjà rebelle, quoi.
Fait rire ses camarades en parlant à point tour.
Alors, c'est vrai qu'en faisant la route à Amiens, j'ai eu droit à des récitations de poèmes, parce que tu es aussi comédien, on l'évoquera aussi. Tu m'as récité du Bernard Dimet, de superbes poèmes de Bernard Dimet, que je connaissais que de nom. Et assez... Mais alors, pour ta première expérience radio, quand tu as 18-20 ans, c'est avant Radio Quinquin, c'est parti de quoi?
Alors, ça part de copains avec qui on a monté carrément une station de radio à Arras, en bas, 5 boulevard Carnot. Alors
ça s'appelait comment alors?
C'était prédestiné, ça. Parce
c'était
que
avant 80, alors ouais.
Dans l'appartement où je suis né, 5 boulevard Carnot, au premier étage, d'accord. C'est là que 20 ans avant était née Denise Glaser, la grande dame de la télévision.
Ah oui.
Tu vois, c'est un peu prédestiné.
Oui, c'est ça. Oui.
Alors non, on avait monté une station de radio, mais on émettait que pour les trois maisons tout autour. Tu vois.
Alors, et les gardiens aussi.
Il y en a qui faisait l'émission et les autres copains, ils allaient chez eux pour écouter l'émission.
D'accord. Oui, vous savez, il y avait autant d'auditeurs que d'émetteurs. Ouais.
Ça, c'est les vraies premières expériences radio. Un peu plus tard, j'ai commis dans cette radio libre qui était Radio Quinquin. Un peu avant, j'étais rentré en contact avec Radio Campus, où j'avais fait quelques chroniques en patois dans Radio Campus.
Qui est une des premières radios libres du nord de la France.
Nord de la France. Et Radio Quinquin, qui était en fait Radio CGT.
Ah oui, d'accord.
C'est une radio qui s'est montée pour, disons, rendre service à tous ces milliers de gens qui avaient été licenciés suite aux fermetures économiques des mines, des fonderies, etc.
Ça.
Et c'était donc Radio CGT qui avait été aidé au début par Radio Campus, qui lui avait donné du matériel, etc. Et c'était donc une radio militante. Hein, que les peuples se lèvent dans le crépitement des mitrailleuses. Bon, presque.
Presque.
Alors, bon, ça c'est Guevara, ça.
Oui.
C'était un peu avant. Alors donc, je faisais des parties d'animation en patois dans cette radio, c'était Radio Quinca, où le centre était au début à Obi.
Voilà, du côté de Douai. Hein.
À côté de Douai.
Ouais.
Alors la station, elle a déménagé un peu partout. Elle a été à Avion, elle a été cité dans la cité qui est près d'Avion, la cité de la République.
Ah oui.
Ça a déménagé souvent parce que comme c'était une radio libre et interdite par
illégale, parce qu'il y avait l'État avait le monopole d'émission sur la
ça,
bande FM.
Avant 80, ouais, on était régulièrement démontés par des groupements de CRS qui arrivaient, j'allais dire, les armes à la main, mais vraiment, parce qu'avec des gaz lacrymogènes, etc. et tout.
Ouais.
J'ai même vu une fois deux automitrailleuses à Obi.
C'est fou quand même. Simplement pour
une
radio.
On avait l'impression de se retrouver comme dans, tu sais, les films de guerre là. Où t'avais la voiture qui passait avec
le morphalou
qui tournait au-dessus de la voiture pour repérer les ondes.
C'est délirant. Hein.
Tu vois, des résistants. On avait exactement la même chose, quoi.
Ouais.
Et heureusement pour nous, on avait une top chez les CRS.
Ouais.
Et donc c'était un garçon qui était à la 16e compagnie de CRS de Saint-Omer. Qui œuvrait sur tout le Pas-de-Calais et qui n'avait pas trouvé d'autre de boulot que celui de CRS pour gagner sa vie. Il fallait bien qu'il bouffe tous les jours. Et il était avant aux jeunesses communistes, au Parti communiste, et secrètement, il avait gardé sa carte du Parti communiste.
Ah oui.
Parce qu'il ne fallait pas que ça sache trop.
C'est ça.
Par contre, à chaque fois qu'il y avait une opération qui était prévue pour démonter nos antennes, il nous passait un petit coup de fil, anonyme bien sûr, en disant « Attention, tel jour à telle heure, il y a une opération de prévue à tel endroit.
Ouais. »
Alors, anecdote, il nous prévient qu'ils viennent démonter tout le nouveau matériel qu'on venait d'acquérir et qui était installé dans le... dans les greniers de la mairie d'Obi.
Ah oui, c'est ça. Ouais.
Et l'antenne était au-dessus de la mairie d'Obi.
Ouais.
Donc on est prévenu. Et évidemment, les CRS arrivent. Alors, c'est là que j'ai vu une opération terrible. Gaz lacrymogène. Il y a une femme qui a accouché dans le bistrot d'en face, au milieu des gaz lacrymogènes. Enfin, c'était...
C'est complètement disproportionné. Ah, c'est délirant. Hein. On retrouve un peu la même chose avec les gilets jaunes et les voilà, ripostes policières.
Délirant complètement. Oui. Ils ont complètement tout démoli dans la mairie d'Oby. Ils ont fait tomber l'antenne. Ils ont fait tomber au milieu de la place.
L'antenne émettrice.
L'antenne émettrice. Et ils ont cassé tout le matériel, sauf que comme on avait été prévenu avant, on avait gardé le nouveau matériel et on avait mis du vieux matériel obsolète
sur lequel ils se sont déchaînés allègrement,
et une demi-heure après la fin de l'attaque, nous réémettions pas loin de là, une centaine de mètres. Et là, on était dans le clocher de l'église d'Oby avec l'autorisation du curé qui nous avait laissé installer notre matériel dans le clocher de l'église.
Ah ouais, c'est ça. C'est une espèce de Don Camillo avant l'heure.
Ouais, c'est ça.
C'est une super anecdote. Alors, on va faire une petite pause parce que tu m'as gentiment offert des recettes à la bière.
Et... Ah, ça, c'est faisait partie de mes premières émissions sur Fréquence Nord dans les années 80.
Ah bah voilà. Et donc, on va pouvoir écouter l'introduction que tu fais sur la cuisine à la bière et puis le petit apéritif. Là, on appelle ça aussi une mise en bouche quand on va se mettre un texte en bouche.
Alors ça, il faut quand même expliquer que Fréquence Nord a été la première expérience de décentralisation de Radio France.
Ah oui. Donc ça, c'est avec François Mitterrand en 82.
Fréquence Nord a débuté le 19 mai 80.
Oui, d'accord.
Et donc, quand Fréquence Nord a débuté, ils ont cherché des chroniqueurs patoisans.
D'accord.
Et ils sont venus me chercher à Radio Quinquin.
Ah bah oui.
Et donc, j'ai fait venir avec moi d'autres patoisans à la radio, que je connaissais bien, comme Jugus,
de Boulogne.
Comme Julie Chémy, de Roubaix.
Ah oui.
Comme Tilouis de Peuplingue.
Ah oui,
de Calais.
Ah oui, ça je me souviens
et
plus
donc,
bien.
Et donc tous ces gens avaient des chroniques, c'était moi qui étais producteur.
D'accord, et tu faisais venir tous tes potes comédiens patoisans.
Patoisans, dans cette première expérience de radio décentralisée, puisque c'était basé sur la région.
Voilà,
donc on avait des créneaux de patois.
C'est ça, c'était une aubaine incroyable.
Comme encore maintenant, je vais dire, on a quelques créneaux de patois sur France Bleu Nord,
qui a
succédé à Fréquence Nord.
Voilà, c'est ça, tu fais l'horoscope en patois, c'est ça.
À l'époque, j'avais différentes chroniques, comme celle que tu as citée au début, de Beffro à Cloquet, Cloquet à Beffro, il y a toute une histoire qu'elle raconte à patois. Bon, où je citais un tas d'auteurs patoisans et je donnais certains de leurs textes. Et puis, j'ai eu d'autres chroniques, comme celle que tu viens d'annoncer, c'est-à-dire, c'était des recettes en patois qui étaient des recettes de ma grand-mère.
Oui, c'est ça, parce que tu évoques comme ça, je dis à mon avis c'est fictif, mais non, en fait c'est vraiment... C'est
des recettes de ma grand-mère que j'ai retrouvées dans un cahier d'écolier écrite à l'encre violette à la plume sergent-major.
Ouais.
Et donc toutes ces recettes, je les ai moi traduites en patois.
Ouais, c'est ça.
Et j'en ai fait une chronique qui s'appelait « Chez le moment du mec du lec méloupe, je t'ai kidnappé et tape sur ce book ».
Eh ben on va écouter la traduction de ces recettes du Mingé à la bière. On écoute José Ambre.
Ce qu'un acquer esclapé, nous autres, j'ai du Nord, on le savait terre tous, j'ai un tout de chopé de mousse. On connaît chez le bière, chez sûr, à force de le boire et puis de trinquer. Mais on ne savait peut-être tes points qu'on pouvait vous inservir sans avoir El Daroule pour accommoder vous manger. Et là, aux arrêts jouissement, découvert des soupes, des rassacaches et des chucartes, avec des sainteurs qui feront baviller, toucher galaf qui sont à l'ubouc comme des roucas. Là, du que je vins, il donne Delforche, un tiomonnet de jus doublon ira un douche comme du velours, avec un ziquette d'amertume qui ravigoreront toucher plus fin gazio. Un cause par coup, il faut que mâcher, j'ai ce qui vient juste pas devant ch'manger, et j'ai l'apéritif et z'amuse-bouc. Quand vraiment que t'es un gars, tu peux offrir à des invités un apéritif qu'ils ont point l'habitude de boire. Un appel chaud, un noir velours. C'est tout simple. De Toul, mi-temps, mi-temps, de l'bière stout avec du champagne. Et pour servir chaud, au lieu de la cater des caouettes ou des bricoles ainsi, te fais des amuse-gueules, ti-même. J'appellerai chaud des tiottes buquettes à l'bière blonde. D'abord, dans un tel, un terrine si tu veux, te mélange 35 grammes de farine avec une grosse cuillère à la soupe de crème fraîche. T'ajoutes dedans 5 grammes de beurre coupé en tiou morchio. Te verse pas de zeur une canette de bière blonde, un monnaie de C et un ziquet de poif. Tout un touillant, te bat le dedans 5 grammes de fromage râpé. Alors là, tu prends mi-temps emmental, mi-temps comté. Et quand ça fait une bonne pâte, te le rétame sur le tap avec ta rouleau à la pâtisserie. Tu sais, je t'y quitte serre quand que t'non mirate avec un pomme. Et puis, bah, te l'éteins pour que ça fèche le mi-temps d'un centimètre d'épée. Te mets de choses sur un tôle à four bien beurré, te saupoudes avec un monnaie de fromage râpé et te décope un tuyau de buquette. Te passe chaud au four, couleur 7, 8, et surtout te mets l'achetreux pour point que ça brûle. Et quand que c'est bien doré, te ne traîne point pour se retirer. Te verras que c'est gramin aussi bon que chez bricole que t'as quatre bien caire, et en plus, ça va avec le noir velours comme des bartels avec un marronne.
Raffole de ces petites choses-là. Là, on rentre dans le,
alors,
dans le patois.
Alors, ce sont des versettes, mais c'est la façon de le raconter aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Évidemment, il y a tout un travail de français derrière ou de patois, c'est pareil. Le travail de la langue, en fait, qui est derrière. Et justement, du vocabulaire, là, des races caches. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est des races caches? Quand tu dis... Des races à cache, pardon, ouais, des races à cache, c'est ça. Là, tu mets poté, ragoût, c'est ça que ça veut dire?
Oui, un race à cache, c'est un ragoût.
D'accord. Et le race à cache.
Un race à cache, par exemple, tu fais une soupe aux lèvres.
Ouais.
Bon. Quand t'as mangé de soupe aux lèvres, tout code, etc., tu peux garder un morceau de lard froid pour manger sur une tartine pour déjeuner le lendemain matin, quoi. Mais il te reste plein de légumes. Et chez légumes, bah, tu vas faire un ragoût avec. Et c'est ça qu'on va appeler race à cache.
Voilà, c'est ça.
On va le faire recuire et c'est un race à cache.
Race à cache, oui. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'orthographe. Tu expliquais que chaque comédien ou poète patoisan se trouvait lui-même l'orthographe pour essayer d'évoquer le mieux.
Non, c'est pas qu'il trouve, c'est qu'il n'y a pas d'orthographe.
Oui, c'est ça.
Le problème, c'est que c'est une langue qui est d'origine latine, puisqu'elle nous est arrivée en même temps que Jules César. C'est-à-dire, c'est le latin vulgaire. Du mot étymologique du mot vulgaire, le peuple,
c'est
la langue
ça.
Du peuple.
Ouais.
Donc c'était le latin du peuple. Et
c'est du style oral principalement. Quoi.
Qui était imposé aux gens que, ici, de tout le nord de la France, occupé par les Romains, par Jules César, il impose la langue du vainqueur au vainqueur.
Ouais.
Bon, ça c'est en 53 avant Jésus-Christ, t'es toponné. Hein.
Bon. Petit non plus.
Presque. Et donc, je vais dire, l'origine de notre Picard, c'est ce latin vulgaire. Alors, avec forcément des restes de la langue originelle des Gaulois, qui était plutôt germanique vers le nord et celtique quand on descendait plus vers le sud. Et donc, on va retrouver des mots comme par exemple les noms de lieux, de lieux dits, etc., ont tous une consonance germanique. Quand tu remontes au sud de Saint-Omer, c'est Tatinghem, Rakinghem, etc. Ghem, le village. Et donc, c'est des mots qui sont restés d'origine germanique, les noms de lieux dits. Par contre, quand tu dis un glen, vient du latin galina, qui veut la poule, et quand tu dis un co, c'est pas,
c'est pas une
déformation du mot chat français,
voilà.
Ça vient du latin catus, mais du latin vulgaire, catus, le chat, et nous on est resté à un co, alors qu'en latin classique, parce qu'il y avait une grande différence, le chat se disait félis.
Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas du tout la même.
Voilà, Félix
racine.
Le chat, ouais. C'est pas anodin. Ouais. C'est Félix qui a donné félin en français moderne.
Les félidés aussi, la famille. Oui, c'est passionnant parce qu'on a l'étymologie française, latine, évidemment, et grecque aussi. Mais avec la langue vulgaire, comme tu dis, qui a été forcément modifiée parce que c'est un style oral, on a plein de racines qui viennent parfois de l'espagnol, parfois de l'allemand. Et...
Arrête de dire que ça vient de l'espagnol. C'est tout simplement parce que l'espagnol vient aussi du latin.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui.
Voilà, parce que.
Oui, c'est trop approximatif. Tu as raison.
Comme on dit, nous, on dit shtaker pour je tequiero en espagnol. Voilà. Mais on disait shtaker avant que les Espagnols envahissent le latin.
Oui.
Ça vient de abecarum, avoir de la valeur, qui a donné charisme en français moderne. Donc avoir cher. Hein, c'est aimer, avoir cher, ouais. Et shta, care.
Et ce qui est étonnant aussi dans le patois, c'est que par exemple, cacher un objet, c'est le mûcher.
Ouais.
Et chercher, c'est cacher, je crois.
Caché.
Donc c'est faux amis, comme on dit en anglais.
Ouais.
Et
j'ai
toujours été frappé par ça, c'est vraiment l'inverse du sens français.
Il y a des
quoi.
Mots comme par exemple avamoutchevac.
C'est quoi moudre les vaches.
Oui, moud.
Traire.
Moud, c'est traire. Traire les vaches. Moutchevac, ça vient du latin moldere.
Ah oui, d'accord.
Traire, avamutchevac, c'est carrément du latin. Quand tu dis terre cœur comme un épavaudé.
C'est quoi? Je comprends pas.
Tu cours comme un épavaudé.
Un épavaudé, c'est quelqu'un de quoi? Un fou?
Ça vient du latin épavaudis, qui veut dire épouvanté, et qui a donné épouvantail français.
Après, par la suite.
Alors, tu cours comme quelqu'un qui a peur.
D'accord.
T'as cœur comme un épavaudé.
Justement, des recettes à manger à la bière. Donc, il y a 40 recettes de bière racontées en patois par toi. Mais tu as tenu un restaurant qui s'appelait La Marmite.
Exactement.
Voilà. Alors, raconte-nous de 71 à 83. Raconte-nous un peu l'histoire de ce restaurant.
Alors,
ça
l'histoire
s'est
de ce restaurant qui se situait aux 3 boulevards Carnot, c'est-à-dire la maison à côté d'où je suis né, numéro.
Ah oui, d'accord. Là où il y a une inflexion sur le boulevard, voilà, il y a un petit square d'ailleurs, c'est au bout de la rue des Capucins, la rue du Noroin.
C'est le square d'Agerue. Donc cette maison à côté, le 3, c'était une épicerie qui était tenue par un monsieur qui s'appelait Maurice Bachelet et sa femme Irène. C'était l'épicerie de quartier.
Alors,
il avait un fils qui avait à peu près mon âge.
Ouais.
Un peu plus vieux qui a joué d'ailleurs comme footballeur professionnel à Sochaux. Et son fils plus jeune, Bernard, j'étais copain avec lui. Et le père Bachelet, ça c'est encore toute une aventure, le père Bachelet, le jeudi, il n'y avait pas d'école. Et il allait avec sa vieille camionnette, avec une caisse en bois, dans tous les villages du coin pour aller ramasser du beurre, des œufs, des volailles et
d'accord.
Tout ça pour vendre. Alors
pour les vendre après en
je
ville.
Je ne parle pas des factures de l'époque.
C'était un peu approximatif.
Voilà. Ça. Bon. Et donc il faisait la tournée tous les jeudis avec son fils et il m'emmenait avec lui. Et c'est comme ça qu'à 14 ans, j'ai pris ma première cuite. Pas vraiment une cuite,
oui.
Mais il m'a dit t'as jamais goûté ça, sinon il m'a fait boire une porter, une bière brune. Alors j'ai passé le reste du voyage allongé sur les sacs de patates derrière.
C'était tes premiers
premier contact avec la bière. Premier contact avec la bière.
Oui.
Ma première cuite, c'est plus tard, j'avais 18-19 ans et ça s'est passé à Paris. C'est Raoul de Gosverveld qui m'avait emmené à Paris au disque DS. Qui étaient les disques qui éditaient les Capnouls.
Maison de disques qui éditaient les chansons de Raoul de Gosverveld.
Et Pierre et Michel Sédi, qui faisaient partie des Capnouls, avec Robert Lefebvre, avec, etc. Et c'est là que j'ai rencontré celui dont tu parlais tout à l'heure, Bernard Dimet. Voilà, et là, j'ai pris ma vraie première cuite avec
d'accord.
Bernard Dimet, avec Pierre et Michel Sédi, avec Raoul de Gosverveld et avec Bobby Lapointe. Au Luxbar. Le Luxbar qui était en face des disques DS, je me souviendrai toujours. Et c'est là qu'à 3h du matin, Bobby Lapointe retournait chez lui à l'autre bout de Paris avec sa deux chevaux en empruntant que les trottoirs des grands boulevards tellement il avait peur de se faire renverser par une autre auto.
Bernard Dimet, tu m'as cité un poème qui était super beau sur l'alcool, je crois, qui parle de l'eau, mais en fait ça parle d'alcool en négatif. Est-ce que tu vois de quel texte tu m'as récité dans ta voiture? Tu ne vois plus de quoi je parle.
Si tu me payes un verre.
Oui, je crois que c'est ça.
Si tu me payes un verre, je ne te demanderai pas où tu vas, d'où tu viens. si tu sors de cabane, si ta femme est jolie ou si tu n'en as pas. Si tu traînes tout seul avec un cœur en panne, je ne te dirai rien, je te contemplerai. Nous dirons quelques mots en gardant nos distances, hein. Et je repartirai avec un peu de toi pour meubler mon silence. Mais si tu me payes un verre, que j'ai très soif ou pas, je te regarderai comme on regarde un frère. Un peu comme le Christ à son dernier repas, comme lui, je dirais deux vérités premières. Il faut savoir s'aimer avec la gueule qu'on a et ne jamais juger le bon ni la canaille. Si tu me payes un verre, je ne t'en voudrais pas de n'être rien du tout. Je ne suis rien qui vaille. Mais si tu me payes un verre, on ira jusqu'au bout. Tu seras mon ami au moins quelques secondes. Nous referons le monde oscillant mais debout. Heureux de constater que si la terre est ronde, on est aussi rond qu'elle et qu'on s'en porte bien. Tu cherchais dans la nuit une voix qui réponde, alors paye ton verre et je paierai le mien. Nous serons les cocus les plus heureux du monde.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein.
Rogne, c'est un mot qui nous vient de province et qui ne veut rien dire à Tulle ou Châteauroux. Mais au cœur de Paris, je connais quelques princes qui sont, selon les heures, archanges ou loups-garous. L'ivresse n'est jamais qu'un bonheur de rencontre, ça dure ce que ça dure, ça vaut ce que ça vaut. Qu'il soit minuit passé ou 5 heures à ma montre, je ne sais plus monter que sur mes grands chevaux. Ivrogne, ça veut dire un peu de ma jeunesse, un peu de mes 30 ans pour une île au trésor. Et c'est entre Pigalle et la rue des Abbesses que je ressuscitais quand j'étais ivre-mort. J'avais dans le regard des feux inexplicables. Et je disais des mots 100 fois plus grands que moi. Oh, je pouvais bien passer la soirée sous la table. Ce naufrage, après tout, ne regardait que moi. Ivrogne, c'est un mot que ni les dictionnaires, ni les intellectuels, ni les gens du gratin ne comprendront jamais. C'est un mot de misère qui ressemble à de l'or à 5 heures du matin. Ivrogne, et pourquoi pas ? Je connais 100 fois pire. Ceux qui ne boivent pas, qui baissent par hasard, qui sont moches en troupeau et qui n'ont rien à dire. Venez voir avec moi, on s'ennuiera plus tard.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse, comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs féroles en caracolant de Prosit en scroll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de Amsterdam, c'est plein d'Amsterdam. C'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes. C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière. donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou, mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux. On fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main.
J'étais à côté de toi, tu conduisais, tu m'as récité peut-être 2-3 poèmes comme ça de Bernard Dimet. Je te remercie beaucoup parce que moi, dès que je rencontre un texte comme ça aussi fort et tellement bien écrit, là tu as fait vraiment œuvre de comédien et c'est tellement appréciable de nos jours d'avoir des comédiens comme ça qui mettent en valeur des textes aussi beaux que ceux de Bernard Dimet. Moi je propose de faire une pause, on va passer à Bobby Lapointe. Et quel est le Bobby Lapointe que toi tu préfères que je pourrais passer?
T'as dit t'as quitté.
Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, l'effet tarpaillard du bar. Car encore Igor il dort, mais près de son oreille, un réveil vermeil lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tes cocus qu'attends-tu? Cuite-toi tes cocus, tac-tac-tac, cuité et quitter ton quartier. Tacati t'a quitté, ta tactique était toc, ta tactique était toc, tacati t'a quitté. Hôte ta toque et troc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. Contre ta tante attaquée, contre ta cocoté, quatre écus tu comptais et quitte ton quartier. Tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté. Tout à côté des catins, des catita qui n'est un coquère coquin et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, t'en compte toqué, qui comptait tant piquant, tout un tas de tickets de quai, quand tout à coup tic-tac tic. Oh matin, quel réveil, matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie.
De toutes tes expériences radiophoniques, laquelle est la plus forte? Qu'est-ce que tu trouves de particulier au médium radio? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce médium-là, toi?
Bon, on peut tout faire à la radio, hein. Moi, mon expérience, ça a duré pendant 6 ou 7 ans. C'est quand j'ai fait le fameux Coq-Tin-Pince. Une émission d'une heure qui passait tous les dimanches entre midi et 13h. C'était « Coq Tin-Pince, t'occupons des signaux fieux, mets du carbon
». Alors t'invitais des...
Alors je faisais ça, on était à 5, j'avais créé cette émission et
avec
j'avais
Julie
ramené 4 copains. 3 qui parlaient, alors il y avait 3 qui parlaient patois et 2 qui parlaient français. C'était un bistrotier d'Arras qui était le Carillon qui s'appelait Alain Ripoche.
Ah oui c'est ça, c'est Bernard a connu un des fils Ripoche, fille Ripoche. Ouais, ils ont fini le fût de bière à un moment. Ils ont fait un repas et c'était assez mémorable apparemment. Bon. J'ai regretté de ne pas avoir connu.
Alain Ripoche, qui tenait le Carillon, il avait d'ailleurs créé un club de buveurs de bière, les Amis de la bière.
C'est ça.
Et...
Oui, il y avait au moins 150 bières, me disait Bernard, café qui était à la place de l'agence du Crédit Mutuel actuel.
Voilà,
ouais, à côté
et
du
il y avait une cave où toutes les bières étaient conservées dans exactement au degré voulu où ça devait être.
Ah ouais.
Donc il y avait des bières à 7 degrés, à 9 degrés, à 10 degrés, c'était... Et il avait une série de pompes à bière, parce que quasiment toutes ces bières étaient sous pression.
Oui, c'est ça, d'accord.
Et il avait tous les verres correspondant à toutes les bières. Oui, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. Donc il y avait Alain Ripoche qui dut parler un français très académique. En fait, j'avais copié un peu sur la partie de cartes de Marcel Pagnol, c'était Monsieur Brun de l'affaire.
Ah oui, Monsieur Brun, oui.
Et de quoi? C'est à toi!
Je le sais bien, mais j'hésite.
Et alors tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain?
Voyons, capitaine, nous vous attendons.
Ah, mon ami,
que la chose est importante. Ils ont 32 et
nous commençons à en
30. Nous allons en 34.
Oui. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd.
C'est pour ça que je me demande si Panis se coupe à cœur.
Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais.
Non, ne te gêne plus. Ne te gêne plus, mon tolito, je pendant que tu y es.
Rien dit, j'ai pas d'un grand rien dit.
En tout cas, nous jouons à la muette, il est défendu de Paris. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié.
Écoute, Panis, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. J'ai jamais vu une figure comme la tienne dans les championnats.
Évidemment. Je me demande toujours si Panis se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami.
Je dis bonjour à personne, je réfléchis.
Mais réfléchis en silence.
Tu as raison, t'as pas besoin de parler. Tu...
Ah non, non, non. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signe, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Ah non, si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein.
Ne me fâchez pas, Panis, ils sont cuits.
Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panis se coupe à cœur.
Yeah, il continue à faire des grimaces.
Tenez, tenez, monsieur Brown, surveillez ce carte-figue, moi je surveille César.
Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci.
Je te fais de la peine.
Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin, je te remercie. Tu me fends le cœur, hein?
Oh, allons, César.
Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur, à toi, il te fait rien, à toi, il te fait rien, alors.
Oh, très bien, t'es cœur.
Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu l'as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur, parbleu. Tiens, tiens, et voilà tes cartes, hypocrite, tricheur. Je ne joue pas avec un grain. Faut pas me faire que tu, ça. Faut pas me faire nos parents entre. Si on maître Panis, si c'est pas ton vie par Maganta, tu me prends le cœur.
Je ne veux pas ressortir dans ce là, alors. Tu me prends le cœur. Il n'a pas l'air
content. Ah non. Cette fois, je crois qu'il est fâché pour de bon.
Mais attends, monsieur Brun, voilà.
Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher.
Écoutez, monsieur Brun, si on ne peut pas tricher entre amis, c'est pas la peine de jouer aux cartes.
Alors, ouais, et surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit.
Non, mais là, ça, le caractère, il a un caractère impossible. Non, non. Hein?
Et j'avais aussi tiré pas mal d'enseignements d'une émission que j'écoutais à Europe 1 dans ma jeunesse.
Ouais.
C'était Maurice Birot.
Ah oui, Maurice Birot, bon, là.
Le Café de l'Europe. C'était une chronique qu'il avait où il était avec des copains dans un bar et il parlait de l'actualité de la semaine.
D'accord, ah oui, donc tu étais
inspiré
de ça.
Et donc on avait refait ça. Avec un personnage qui parlait un français très académique.
Académique, c'est Monsieur Brun.
Qui critiquait sur notre mauvais parler. Il y avait un autre débitant de boissons qui était Monsieur le Duc, qui c'était André Dufour, patron d'un bistrot à Douai, d'un bistrot d'accord. Célèbre, un casino.
Enfin, c'était pas loin du où Édouard Baird a fait son émission dans laquelle tu es intervenu. Là,
Son bistrot, il était à la sortie de Douai vers Lille.
D'accord.
Là, c'était au Grec, on a fait l'émission avec Édouard Baird. C'était en centre de Douai. Lui, il était à la sortie et il avait beaucoup d'élèves de l'école d'ingénieurs de Douai qui venaient, etc. Et il avait un bistrot qui était immense. Et c'était un casino qu'il appelait. Bon. André Dufour, qui était en même temps président de l'association des Tiopères de Douai, une association de patoisans, dont faisait partie Jean-Claude Darnal, qui était originaire de Douai.
Donc c'est l'émission Cocteau Pince, tu l'as produite pendant, ça a duré quoi
Oh, ça a duré, je sais plus, 8 ou 9 ans.
Ah oui, quand même, ah oui. Peut encore en écouter certains,
c'est archivé ou... des archives, alors là, toutes mes archives...
Elles sont pas sur un site internet
Non, toutes mes archives, j'ai pas pu t'en ramener parce qu'elles sont toutes parties à Paris. Étant donné que l'année prochaine, le 19 mai, on fête les 40 ans de la radio...
France Bleu.
Mon patron Antoine de Galza m'a demandé de... lui prêter toutes mes archives radiophoniques que j'avais.
Elles vont être numérisées
Elles vont être numérisées, parce que c'est tout en bobino.
Ah super, ah oui, c'est bien. Ouais.
Et donc tout va être numérisé.
C'est un patrimoine incroyable, ça. Ouais.
Et ça va me revenir...
numérisé, quoi.
Numérisé. À partir du 19 mai, pour les 40 ans, toutes les nuits, on va rediffuser des programmes qu'on diffusait en 80.
Ah bah super, mais écoute, hein, on prend rendez-vous alors.
À partir du 19 mai 2020.
2020, ouais, c'est ça. Ben, on se verra entre temps, mais moi, je vais fréquenter souvent le Rapperché, là, le café citoyen. Ouais. C'est un café où ils font une bière locale. Souvent, bon, c'est plus modeste que les 150 bières de Le Duc, mais en tout cas, il y a un esprit et des valeurs voilà. Qui sont bien.
C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs verres. En caracolant de Prosit en scroll, ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien, ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la main, c'est plein de Amsterdam, c'est plein d'Amsterdam, c'est plein de mains d'hommes au groupe des femmes, c'est plein de mes mères qui ont depuis toujours un sein pour la bière, un sein pour l'amour. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, Dieu qu'on est bien, ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'horizons à vous rendre fou, mais l'alcool est blond, le diable est à nous. Les gens sans Espagne ont besoin des deux, on fait des montagnes avec ce qu'on peut. Ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la
Dans Cocktail Pass, t'avais un note, c'était Jean-Marie Blondel, qui était le représentant de commerce, qui avait toujours une blague à raconter, mais qui faisait rire personne. Et il y avait Jacques Henbeek, qui était, lui, le journaliste, criviste. Et il était journaliste au Cri du Sud de la Thiérache.
D'accord, ah oui, d'accord.
Et ouais. Moi, donc, c'était les cinq personnages de Cocktail Pass. Ouais. Et on se retrouvait dans le bistrot de Monsieur Le Duc, c'est-à-dire à Douai. Et autour d'une bière, on racontait toute l'actualité de la semaine. Avec, évidemment, de la musique entre deux, mais qui correspondait toujours aux blagues qu'on faisait.
Ouais, donc c'était thématique. C'était une heure, c'était une émission d'une heure. Ouais, d'accord. Bah écoute, j'ai hâte d'entendre ça, d'entendre ces archives-là, parce que je me souviens de tes chroniques, mais je n'ai pas souvenir de cette émission. Je ne pense pas que je suis tombé dessus, même par hasard.
L'horoscope, c'est encore une aventure un peu bizarre, c'est que...
Oui, comment c'est le directeur qui t'a proposé...
Ça fait 20 ans, c'est Jean Collin qui était directeur à l'époque, et on était à 7h du... Parce qu'à l'époque, j'étais en direct le matin.
Ah oui, donc il fallait que t'ailles à Lille.
Matin, j'arrivais à Lille à 7h, ah oui. Et je faisais mes chroniques en direct. Et après, on enregistrait.
Oui, c'est ça.
Avec à l'époque, on a travaillé au Nagra, les bandes magnétiques on faisait les montages au ciseau.
Ouais, la vache.
Alors maintenant, c'est de la rigolade.
C'est long aussi, mais enfin, c'est autre chose.
Quoi. Il y avait une nana, c'était une bretonne qui faisait l'horoscope pour toutes les stations régionales de France. Et alors, c'était un petit peu l'élève de 6e qui fait sa récitation. Nanana, nanana,
ah oui,
nanana,
ça chante.
Nanana,
ça, c'est
nanana,
le défaut voilà. Du comédien qui débute.
Et
ouais,
il me dit, c'est triste. Il dit, pourquoi tu ferais pas l'horoscope? Il dit, j'y connais rien du tout. Pas grave. Il dit, on va te trouver quelqu'un qui va te donner des amorces, quoi.
Ouais, ça.
Puis après, tu délires dessus. Et on a fait donc un truc de 8 jours. Ça a tellement...
Ça fait péter l'audimat.
Péter l'audimat que ça fait 20 ans que je fais l'horoscope. 365 jours par an.
Voilà, c'était le quart d'heure, le 4 quart du mois de mai 2019 qui se termine. Je vous dis... au mois prochain, passez un bon mois.